Dure réalité du merveilleux. Quand il entreprend la préparation de Peau d'âne en 1969, à son retour des États-Unis, Jacques Demy rêve d'un film chatoyant et luxueux. Le merveilleux, principe au cœur de sa vision du monde, va trouver dans ce film de magie un logique accomplissement, même si le cinéaste doit constater que la magie se paie très cher. Imaginant nombre de travelling et mouvements de grue, il veut donner à sa mise en scène une allure hollywoodienne, celle qu'il a justement refusée dans son film américain, Model Shop. Mais Mac Bodard, la productrice, ne peut réunir l'argent nécessaire et il faut tout revoir à la baisse. C'est ce rêve contrarié et une simplification obligée qui va aider Demy à trouver l'équilibre miraculeux de Peau d'âne, mélange inspiré de bricolage et de magie. Décor. En pleine forêt, quelques objets inattendus tranchent avec le décor naturel et suffisent à créer un monde magique. Un miroir, un téléphone. De même, les grands murs des salles de Chambord sont simplement habillés de lierre. L'ornementation reste circonscrite aux vitraux ou à des éléments de décor précis dans de vastes espaces intérieurs, lits, paravents, trônes, miroirs. Le lit de Peau d'âne devait être une grosse fleur s'ouvrant et se refermant au moment du coucher, mais au tournage, le mécanisme ne fonctionne pas. Jacques Demy raconte « J'avais aperçu deux serres en bas, dans l'entrée de Chambord, on les a fait monter et on a fait le lit avec ça en improvisant le reste. » Au final, les serres en toc, gardiens d'un lit planté au milieu de la chambre, rime avec le daim aperçu chez la fée et ajoute au riche bestiaire du film. Déjà, dans ce croquis dessiné par Demy dans sa jeunesse, les bois des serres se confondent avec les arbres, mêlant l'animal et le végétal, comme une préfiguration du château de Peau d'âne. Costume. Caractéristique propre au merveilleux, le film s'affranchit de toute référence historique précise, et comme la musique de Michel Legrand qui mêle clavecin et orgue électronique, les styles et les époques cohabitent. Robe Louis XV de la princesse et costume Henri II du prince. Éléments classiques tels la collerette et déshabillés vaporeux de star hollywoodienne pour la fée des lilas. Manches du roi exagérément bouffantes dont la forme et le volume s'inspirent de compositions d'Eisenstein ou de Wells. Tout se distribue et se compose autour d'une idée forte, une famille royale en rouge et l'autre en bleu. Agostino Pace se souvient de cette division chromatique. Nous avions convenu de peindre tous les éléments, des visages aux meubles, en passant par les chevaux. Demy a fait appel à Pace, costumier de théâtre, qui dessine les tenues des personnages principaux, tandis que Gite Magrini, costumière d'Antonioni et de Bertolucci, se charge de les concevoir et de les fabriquer en Italie. Influence importante, Demy a rencontré en novembre 1969 Léonore Fini, peintre et décoratrice de théâtre qui a inspiré Cocteau et les surréalistes. Le souvenir de ses déguisements animaliers et autres délires fantasmagoriques plane sur les costumes et l'univers du film, particulièrement le bal des chats et des oiseaux. Robe. Clou du spectacle, les robes de la princesse doivent défier l'imagination, puisque même la fée des lilas ne pensait pas que cela fût possible. Pas moins de 10 robes sont prévues contre seulement 4 costumes différents pour le prince. Les premiers dessins font ressortir des formes bouffantes et volumineuses, semblables au costume du roi, tel père, telle fille. Avec toute la surcharge décorative nécessaire, on doit sentir les matières des tissus, écrit Demy dans ses notes préparatoires. Brocart, paillettes, diamants, voiles, cristaux, perles. Simple, mais de couleurs vives. Illustration enfantine plus proche de Disney que du bon goût, ou plus Disney que Gustave Doré. Et si c'est une vraie peau d'âne que la princesse en fuite porte sur ses épaules, la robe couleur du temps, elle, est une création de toute pièce, faite de la matière même des écrans de cinéma et devenant ainsi support idéal à toutes sortes de projections. Projection dans le film, la robe faisant voir le ciel et des nuages, projection du spectateur qui, lui aussi, ne croyait pas que cela fût possible. Trucage. À l'inverse d'un effet spécial réalisé plus tard en laboratoire, le trucage, selon Demy, doit garder un côté artisanal ou primitif, si possible réalisé au tournage. Parfois, c'est le langage cinématographique lui-même qui sert de trucage et redevient magique. Le dédoublement de Peau d'âne en princesse dans la cabane, par la seule grâce du chant contre chant et du découpage, le carrosse qui redevient citrouille en vertu d'un simple raccord d'un plan à l'autre. La liste manuscrite des trucages donne une idée de leur importance, de leur variété et de leur simplicité. Apparition-disparition, transformation, ralenti, combiné à une marche avant ou arrière, accéléré, baguette magique, personnage arrêté. Demy, contemporain de la nouvelle vague et héritier du cinéma réaliste des Frères Lumière, dit aussi ce que son art doit à Méliès, à ses fantasmagories et à ses transformations à vue. Inspiration. Le merveilleux dans Peau d'âne dépend de cet équilibre entre magie et réalisme, en même temps qu'il se nourrit d'une histoire légendaire et de toute une iconographie qui l'a précédée. Gravures anciennes, plaques de lanternes magiques, cinéma muet. Une légende et un imaginaire qui s'enracinent dans une tradition romantique du XIXe siècle français. À cette tradition ancienne vient s'agréger comme par magie, c'est-à-dire avec le plus grand naturel, l'influence contemporaine de la mode hippie, dont Demy a été témoin lors de son séjour à Los Angeles. Contre-culture et psychédélisme irradient la séquence du rêve, où les amants veulent faire ce qui est interdit et fument la pipe en cachette, où d'étranges fleurs colorées poussent dans les champs, où des banquets à ciel ouvert font couler le vin. Quant à la barbe fleurie du roi rouge, elle évoque certes Charlemagne, mais peut-être plus encore en cette fin des années 60, un flower power décidément hégémonique. Et comme pour authentifier ce lien, Jim Morrison en personne, le chanteur des Doors, vint sur le tournage à Chambord, un instant immortalisé par la caméra d'Agnès Varda. Souvenirs de cinéma, souvenirs d'enfance. Jacques Demy voit Les Visiteurs du soir à l'âge de 11 ans. Vision d'un Moyen-Âge stylisé, perception d'un réalisme poétique transposé dans une France de troubadours et de créatures maléfiques. Mais c'est surtout La Belle et la Bête de Jean Cocteau que Demy et Patché revoient plusieurs fois pendant la préparation du film. Présence de Jean Marais, costume de la bête, décor vivant, trucage, chemin mystérieux dans la forêt, formule magique, rôle des miroirs. Jacques Demy a 6 ans lorsqu'il voit Blanche-Neige et les Sept Nains. Il se souviendra du cercueil de verre, de la chanson, du gâteau, de la présence amicale des animaux de la forêt. Pour Peau d'âne, Demy repense aussi à Cendrillon, à sa marraine, une fée bonne conseillère, aux jolis pieds glissés dans une pantoufle de verre et à la belle au bois dormant. Miroir, mon beau miroir. Dès le générique, un livre apparaît, hommage à l'origine littéraire du récit, puis l'illustration, en première page, bouge. L'écriture devient film, l'image fixe s'anime. De l'image arrêtée, on peut rester prisonnier. De même, les miroirs, cette eau congelée, selon le mot de Claudel, retiennent les personnages pris dans la contemplation de leur reflet, comme une image dans son cadre. Mais le miroir est à double face, devenant aussi surface de projection. Peau d'âne voyant ainsi son père le roi, comme avec une caméra espionne, Peau d'âne regardant son reflet dans l'eau de la mare comme Narcisse, et appelant de ses voeux un prince charmant qui arrive au plan suivant. Et quand le prince prend sa loupe pour scruter la bague de sa bien-aimée, celle-ci survient alors dans sa chambre. Regarder dans un miroir suscite la projection, la surface devient écran, comme si le cinéma avait été inventé déjà au temps des rois et des reines. La traversée. Comme dans un miroir ou un reflet, l'autre est un double, une projection de soi. Le prince s'est dédoublé pour entrer dans son rêve, tout comme Peau d'âne pour faire son gâteau. Mais le miroir, le cinéma le sait depuis Cocteau, est aussi un passage secret vers un autre monde. Et ce passage engendre en chacun une véritable métamorphose. Alors seulement le conte peut finir, ayant lui-même accompli son pouvoir de transformation que seul provoque sa lecture ou sa vision, sa projection. À la toute fin du film, la vilaine Peau d'âne glisse au sol et révèle la robe couleur de soleil. Le prince saisit la main de la princesse et l'amène à son père et à sa mère, ou plutôt vers la caméra qui a pris la place des parents. Puis nous sommes sur la terrasse de Chambord. Demy raccorde dans le mouvement. Le jeune couple, à présent de dos, achève son avancée. Le prince et Peau d'âne ont fini de passer de l'autre côté du miroir. Ils ont achevé leur métamorphose. Comme Alice, les amants merveilleux savent désormais que les miroirs sont faits pour être traversés. Le propre et le sale. Le propre, le beau sont dans ce royaume la mesure de toute chose. La laideur ou la saleté, une véritable hantise. La proposition de la fée de couvrir sa filleule de la peau de l'âne devient une transgression. Se revêtir d'une peau qui pue, s'enduire le visage de suie, vivre dans une ferme tenue par une mégère qui crache des crapauds, en toute logique, ce sont les blanchisseuses, incarnation du propre, qui commencent par se moquer de Peau d'âne. Grâce à sa baguette magique, Peau d'âne fera de sa cabane un lieu transitoire, un lieu à elle et très singulier puisque le propre y côtoie indifféremment le sale, luxe et pauvreté, jarre en terre et fauteuil splendide. Le critique de cinéma Serge Danet a noté que la chanson du cake d'amour était comme la pliure du film. À mi-chemin du parcours de Peau d'âne entre les deux châteaux, Elle fait coexister à cet instant la princesse et la souillon. Enfant, où es-tu ? Podane est un conte pour enfants, mais il n'y a guère d'enfants dans le film et guère plus dans les autres films de Jacques Demy. Si les petits sont aussi effacés dans un univers pourtant dévolu au monde de l'enfance, c'est que les adultes ont pris leur place. Podane change de robe dans sa cabane comme si elle jouait à la poupée et fait son cake d'amour comme si elle jouait à la marchande. Le prince, lui, fait des caprices. Il boude et son visage ne s'éclaire que lorsqu'il avoue son rêve secret. Je voudrais que Podane me fasse un gâteau. La princesse et le prince encore davantage paraissent en constante représentation, comme s'ils jouaient pour leurs parents une sorte de spectacle de Noël, une comédie de l'innocence et une mélodie du bonheur. Mais le bonheur n'est qu'un rêve et l'enfance est souvent solitaire. J'ai besoin de calme, je n'ai pas dit que j'avais besoin de compagnie, dit le prince. Et sa relation avec la princesse est moins amoureuse que fraternelle. On y retrouve le spectre de l'inceste. La sublimation des rapports sexuels, constante de l'œuvre de Demy, masque un tabou qui se paie au prix de la mélancolie. Demy éliminera ses paroles de chanson, trop explicites sans doute. Nous ferons ce qui est interdit, jusqu'à la fatigue, jusqu'à l'ennui. On peut être parent et enfant. Catherine Deneuve joue la reine et sa fille. Pas de descendance, mais une reproduction à l'identique, ou un auto-engendrement. La seule création à l'œuvre d'Empodane, la seule transformation réussie, est la confection du gâteau. Car si la princesse doit se changer en souillon avant de retrouver ses atours royaux, qu'a-t-elle gagné dans cette épreuve ? Alors que tout conte ou récit merveilleux présente une transformation-émancipation de son personnage, le film de Demy reste ambigu, et la morale pas forcément sauve. La fée des Lilas a beau interdire l'inceste pour des questions de culture et de législature, il reste un sourire ravi sur le visage de la princesse quand son père la retrouve enfin et lui assure que désormais, nous ne nous quitterons plus.